Horrisant de parler, d'avoir cette responsabilité-là, de la partager avec vous. Mais c'est aussi une belle peur parce qu'elle remet les choses en place, à leur juste place. Chacun dans nos vies professionnelles, on a l'occasion d'avoir des responsabilités, de parler devant des gens, de devoir faire des choses importantes. Mais rien n'est aussi important que ce qu'on fait ici le dimanche matin. Le reste du temps, c'est un jeu utile, un jeu essentiel pour vivre, pour exister, pour participer à la vie sociale. Mais comme l'a rappelé Michel et Paul, tant que le dernier moment n'est pas arrivé, où là on prend la responsabilité pour l'éternité, ça ne reste qu'un jeu. Et pour anecdote, il y a quelques jours, j'étais au théâtre Antea, le nouveau théâtre d'Antibes, devant 1000 personnes en train de faire le récitant sur le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Donc a priori, là nous sommes 30, mais je vous promets que là-bas c'était un jeu, ça m'amusait, je ne risquais rien, au pire je me trompais, et alors, qu'est-ce que ça faisait? Là aujourd'hui, ici, ce n'est pas un jeu. Et même si notre joie est 1000 fois plus grande que tous les auditeurs de tous les spectacles du monde, alors qu'ils, eux, croient être heureux sur le moment, mais sur le fond, s'ils n'ont pas rencontré Jésus, ils ne sont pas heureux sur le fond. Alors que nous, si nous sommes dans la gravité, ce qu'on dit Paul et Michel était grave, mais tout ça est porté par une vraie joie qui est indépendante de tous les jeux des hommes. C'est pour ça que la terreur que j'ai quand je viens ici, c'est une belle terreur parce qu'elle n'est pas le fruit des hommes, mais c'est la sainte terreur qu'inspire la présence de Dieu dans nos cœurs. Ce petit préambule me paraissait nécessaire parce que aujourd'hui, donc c'est Pâques, c'est tombé sur moi. Évidemment, je lis les petites pages des calendriers. Premier verset, le Seigneur est réellement ressuscité. Comme disent les orthodoxes quand ils se saluent le dimanche de Pâques, Christ est ressuscité et ils s'embrassent. Et c'est une belle chose. Et j'aimerais qu'on le fasse. Et vraiment ressuscité. Avant de commencer, donnons-nous du courage et de la joie. Embrassons-nous. Christ est vraiment ressuscité. Voilà. Bon, tous ceux que j'ai pas pu faire de loin. Ce théorème, ce postulat, cette vérité posée, qui assoit notre présence ici et redonne le sourire à tout le monde, on va essayer d'aller un peu plus loin dans cette fête de Pâques. Et je n'ai aucune prétention d'apprendre quoi que ce soit à personne, surtout pas. Mais j'aimerais qu'on replonge un peu dans ce qu'est réellement Pâques. Et peut-être que le Seigneur est réellement ressuscité, ce n'est que la queue de la comète, et qu'en fait tout démarre beaucoup plus tôt. Et ce Seigneur est réellement ressuscité, notre Jésus est vivant, ça n'a de sens que parce qu'il y a eu tout le reste avant. Et ce reste, on l'oublie beaucoup finalement. Et on l'oublie tellement nous-mêmes chrétiens, et même les non-chrétiens. Il y a vendredi dans le journal de France 2 de 13h, il y avait le journal et le journaliste dit c'est Pâques pour les chrétiens là qui commence et c'est le Vendredi Saint, et ils font venir une journaliste qui dit donc madame je sais plus quoi, dites-nous ce qu'est Pâques. Donc elle avait une minute, donc elle avait préparé son sujet, c'était pas un micro trottoir, et elle dit oui ben Pâques c'est la fête des chrétiens parce que c'est évidemment là où Moïse a sacrifié un agneau pour ouvrir la mer Rouge. Texto, voilà, c'est tout. Elle a brodé sur ça pendant 45 secondes, parce que c'est des temps élevés. Et voilà ce qui est devenu Pâques dans un journal de la chaîne publique. Peut-être parce qu'ils sont en grève, ils envoient n'importe qui, ça doit être ça. Mais enfin, j'étais totalement confondu qu'au moins ils disent, alors qu'ils n'osent pas dire que Jésus est ressuscité, mais qu'ils disent au moins, pour les chrétiens, c'est le jour où le Christ est ressuscité, c'est comme ça. Non, c'est... voilà. Du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a été chercher là? Et j'ai décidé donc de vous lire à la suite de Paul et Michel, le texte fondateur de la fête de Pâques, et c'est dans Exode. Et c'est absolument pas dans le Nouveau Testament. Donc on va lire, ça va durer un certain temps, je vais demander à José de le mettre, j'essaie de vous lire ça avec une voix intéressante, pour qu'on comprenne ce que c'est que la fête de Pâques. Et qu'on comprenne pourquoi dire Jésus est vraiment ressuscité, ça a du sens. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre de personnes. Vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra son sang et l'on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez, une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir, et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez le levain de vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun ouvrage ces jours-là, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour précis que j'aurai fait sortir vos troupes du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de la communauté d'Israël, que ce soit dans le pays, un immigrant ou un autochtone. Vous ne mangerez aucun pain levé. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du petit bétail pour vos familles et immolez la Pâque. » Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec du sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper, et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour vous frapper. Vous observerez cela comme une prescription pour vous et pour vos fils à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa parole, vous observerez ce rite. Et lorsque vos fils vous diront « Mais que signifie pour vous ce rite ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les Israélites s'en allèrent, ils firent exactement ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Et juste le verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'au tout premier-né du bétail. Voilà. La Pâque, vous le savez, évidemment, encore une fois, je ne vous apprends rien, c'est juste vous rappeler des choses. C'est une fête juive, et c'est une fête de sang, c'est une fête de mort, c'est une fête qui met en place un événement dramatique pour les Égyptiens et qui, pour le peuple juif qui l'a vécu à ce moment-là, le peuple hébreu, c'est un moment de grande terreur. C'est-à-dire que c'est la mort qui passe. c'est l'obscurité, c'est les cris qu'on entend partout de tous les autres premiers-nés qui, eux, vont mourir. C'est ça, la Pâque. Et alors, pourquoi on dit la Pâque? C'est aussi intéressant. Bon, c'est un mot hébreu, donc Pessa, qui, en fait, veut dire sauter, sauter par-dessus quelque chose, passer par-dessus. Donc, la Pâque, c'est dit dans ce texte-là, c'est la mort qui passe par-dessus les maisons des Hébreux, les maisons protégées. Et la fête chrétienne que nous fêtons traditionnellement, c'est que finalement la suite de ça, c'est-à-dire qu'elle n'existe cette fête que parce qu'il y a la Pâque, la vraie Pâque, la Pâque juive, qui prend tout son sens. C'est comme une mise en abîme. C'est-à-dire, on ne peut pas lire ce qui a été lu précédemment et que nous connaissons, et heureusement que nous l'avons lu, sans avoir ça en tête. Et c'est ce que j'essayais de vous démontrer dans la suite de ma prédication. C'est une mise en abîme, c'est comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, la pochette des Pink Floyd, l'album Uma Guma, je crois que c'était celui-là, ou Searchful of Secrets. Vous aviez des gens qui étaient dans un salon, il y avait un tableau. Et puis dans le tableau, on revoyait les mêmes gens dans le même salon qui étaient dans le tableau. Et puis dans le tableau, dans le tableau, dans le tableau, dans le tableau. En fait, ça n'arrêtait pas. Voilà, la mise en abîme, elle est là. Et Jésus, sa Pâque à lui, elle n'a de sens que parce qu'elle s'inscrit dans cette Pâque-là que nous venons de lire. Et quand on a cette Pâque-là en tête, et lui va expliquer dans tous ses évangiles et les apôtres par la suite, si on n'a pas cette Pâque-là en tête, elle perd quasiment les trois quarts de sa valeur. Et on ne s'arrête qu'à la résurrection. Évidemment fondamentale. Mais j'aimerais vous démontrer que la résurrection, c'est une conséquence. Et non pas une cause. Et que la cause, le nœud central de la Pâque, il est avant la résurrection. Même si c'est la résurrection qui lui donne toute sa valeur. Je ne vais pas relire, je vous comptais lire Luc 22, 1, 16, mais ça a été lu précédemment, donc ça tombe très bien, ça me fait gagner du temps. Donc vous avez en tête le fait que Jésus dit à ses disciples, nous allons préparer la Pâque, donc aller dans cette maison, l'anon, etc., et on va se mettre en position de préparer cette Pâque-là. Donc lui-même s'inscrit dans la grande fête juive qui avait lieu tous les ans. Et c'est important aussi de se dire que c'est pas quelque chose qui est venu de nulle part, il s'est simplement mis dans la tradition, dans l'ordre que Dieu avait donné à tous les Hébreux, à tous les Juifs, et lui-même a suivi cet ordre-là. Et évidemment, le sang de l'agneau, alors ça, vous le connaissez suffisamment, le sang de l'agneau, ça va être le sang de Jésus qui, mis sur le linteau de nos vies à nous, permet à la mort de passer par-dessus. Et le pain sans levain, dont on ne parle pas suffisamment, c'est en fait, ça devient le pain parfait. Donc j'en parlerai un peu plus tard de ce pain sans levain qui est absolument très important. Le sang de l'agneau, donc, épargne les Hébreux de la mort. Et nous, le sang de Jésus mis sur le linteau de nos vies personnelles, nous permet de passer, que la mort qui est dans ce monde passe par-dessus nous, même si dans nos corps mortels elle va nous atteindre, on sait qu'ensuite nous serons vainqueurs grâce à ce sang-là. Rien de nouveau évidemment, encore une fois je ne fais que répéter des évidences, mais qui ont un sens par rapport à ce que nous avons lu. Et le pain dont il est question, dans l'Ancien Testament, c'est le pain qui va leur permettre de subsister dans leur fuite, dans leur marche dans le désert. Et pour nous, évidemment, c'est le pain de vie, c'est le pain de la parole, c'est le pain de l'esprit qui est en nous et qui nous permet de subsister, en dehors du pain quotidien, dans le monde qui nous entoure et qui est un monde de mort. Donc, célébrer la Pâque, c'est avant tout célébrer le passage de la mort qui nous épargne. C'est célébrer la vie en ce sens que la mort existe, qu'elle nous frappe, qu'elle devrait nous frapper, mais qu'elle passe par-dessus, qu'elle saute au-dessus de nous. Célébrer la Pâque, c'est surtout célébrer le départ, le mouvement, la mobilité. Regardez dans Exode donc 12-11, je vous relis juste le verset 11. « Voici comment vous mangerez la Pâque, une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. On ne s'assied pas. La Pâque, c'est je m'en vais. La Pâque, je m'enfuis. Je m'extirpe de ce monde qui est autour de nous, qui est un monde de mort, qui est un monde qui mène à la mort, qui est un monde de fausse joie, comme je disais précédemment, qui est un monde qui ne mène à rien. C'est ça la Pâque. Et les Hébreux, ce premier jour de Pâque, ils font pas la fête. Ils sont enfermés dans leur maison, ils entendent des choses horribles, ils s'imaginent que la mort passe, ils l'entendent, et elle passe au-dessus. Est-ce qu'elle faisait du bruit? On ne sait pas. Mais ça va être un moment terrifiant. Et ils sont prêts, avec leurs bâtons, avec leurs sandales, dès que Moïse donnera le signal, de partir, de fuir. Ils ne s'installent pas un seul moment. Célébrer la Pâque, c'est se retirer du monde terrestre. C'est partir d'Égypte, où il y avait tout finalement. Bon, ils travaillaient dur, ces esclaves, mais bon, il y avait une forme de protection qu'ils vont d'ailleurs réclamer quand ils seront plus tard dans le désert. Revenons. Non. La Pâque, c'est je refuse ce monde-là. Je ne suis pas de ce monde-là. Je prépare mes sandales, mon bâton. Je sens la mort qui passe. Je suis conscient de tout ça. Et je pars. Je pars pas n'importe où. Je pars accompagné par Moïse, pour l'Ancien Testament, je pars accompagné par Jésus, comme disait Paul, qui a disparu, non, il est là. Il y a le pilote, le vrai, qui nous montre le plan de vol. Et donc, célébrer la Pâque, c'est ne pas perdre une seule seconde de notre temps. Et on rejoint ce que disait Michel. Pas perdre une seconde, car chaque seconde va être extrêmement précieuse. C'est l'histoire de Lot. Je voudrais juste vous lire ça dans Genèse. Toujours faire le parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce que la Pâque n'existe dans l'un que parce qu'elle existe dans l'autre. Dans Genèse 19, Genèse qui, je vous rappelle, est le deuxième pays de Yann Bantel, hein, donc chaque fois qu'on y rentre, on est terrorisé. Donc si je dis une bêtise, Genèse 19, l'épisode de Lot, donc versets 14 à 17. Lot sortit pour parler à ses gens qui avaient épousé ses filles et leur dit « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Sortez, partez, précipitation. Mais aux yeux de ses gens, il parut plaisanter. Quand l'aube se leva, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici pour ne pas succomber avec la ville fautive. » Mais il s'attardait. Alors les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le laissèrent en dehors de la ville. Après les avoir fait sortir dans les environs, l'un d'eux dit « Échappe-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, échappe-toi vers la montagne de peur que tu ne succombes. » Et l'autre leur dit « Oh non, je t'en prie Seigneur, etc. » Et on sait que la femme de l'autre, elle va se retourner et va être transformée en pierre. Voilà une avant-Pâque. Vous êtes dans une ville de mort, fuyez, Dieu nous prend par la main, allez-y, vite, partez. N'attendez pas. Chaque seconde compte. Fuyez, parce que la vie, elle n'est pas là où vous êtes et où vous croyez que vous la maîtrisez. Elle est ailleurs et Dieu nous prend la main. Et parallèlement, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 8, 21-22, l'épisode est beaucoup plus court, vous le connaissez aussi. Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre rive. Un scribe s'approcha de lui et dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Nous n'avons pas d'endroit où reposer notre tête. Mais surtout, un autre parmi les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir le mort. » Voilà la Pâque. Tu veux venir? Viens tout de suite. Les morts, tu les laisses. Même s'ils sont encore vivants. C'est vraiment ça la Pâque avant tout. C'est cette compréhension soudain du mouvement, du départ, de pas de temps à perdre, rien à garder, rien à conserver. On avance, mais on va pas n'importe où. On suit Moïse, et nous on a la chance que Moïse, que notre guide à nous ne soit plus un homme, mais soit Jésus. Donc le guide est encore plus parfait. Alors, la deuxième, le deuxième point sur lequel on doit parler, dont on parle beaucoup dans la fête de la Pâque, c'est le pain sans levain. On passe assez souvent, assez rapidement sur ça, moi en premier, et en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses de très important qui sont dites dans cette histoire de pain sans levain. Le pain avec levain nous fait perdre du temps. Quand on fait du pain, on met du levain pour qu'il gonfle, pour qu'il grandisse, pour qu'il... Et à ce moment-là, il devient beau, mangeable, etc. Mais ce levain-là demande du temps, demande de l'attente. Et si Moïse dit « partez avec du pain sans levain », parce qu'il sait très bien que quand on fabrique le pain la nuit, il faut du temps pour qu'il monte, et on peut partir, donc on perd des heures. Eux, ils savaient qu'au matin, dès que la mort était passée, que l'ordre serait donné, il fallait partir parce que les Égyptiens, eux, ils allaient se réveiller. Et il leur dit, au verset, donc chapitre 12, verset 14, « Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Leur pétrin était enveloppé dans leurs vêtements, sur leurs épaules. » C'est-à-dire qu'il fallait partir avec le pain sans levain pour avoir une chance d'échapper à la vengeance des Égyptiens. Et le levain, c'est quelque chose de négatif. Le levain des hommes, c'est tous les... Je parlais du veau d'or il y a quelques mois, c'est tout ce qui nous traîne, tout ce qui nous retient dans la ville, qui empêche de partir de Sodome et Gomorre, qui empêche de partir de nos joies de la terre, de nos bienfaits qu'on croit éternels, de nos fausses joies. Ce levain-là, il est mauvais. Et j'en veux pour preuve dans... 1 Corinthiens 5, 6, 8, où c'est extrêmement clair, chapitre 5, donc Paul dit, « Il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Le levain est un agent toxique. Quand il est mis dans les mains des hommes, c'est marqué la perfidie, la méchanceté. C'est tout ce qui nous retient. C'est tout ce qui nous donne le sentiment que de nous-mêmes, nous pouvons améliorer ce pain que Dieu nous donne. Mais le vrai pain de vie, c'est celui où le seul levain qui est accepté, c'est celui que met Dieu, et c'est marqué, c'est le levain de la sincérité et de la vérité. Donc le pain de vie dont il est question dès Exode ne supporte pas le levain. C'est pour ça que c'est tant de fois répété cette histoire. Ne faites manger pendant 7 jours du pain sans levain. C'est tout ce qui va rappeler au peuple juif, au peuple hébreu, que ce levain-là, c'est ce qui retient l'homme aux choses terrestres. C'est ce qui lui fait perdre du temps. C'est ce qui lui donne sa fausse utilité. Non, on prend le pain sans levain, on l'a fabriqué nous-mêmes, on part avec lui sur le dos, on va dans le désert, et là, c'est Dieu qui va mettre la sincérité et la vérité dans ce pain-là pour qu'il devienne du pain de vie. C'est ça la Pâque aussi. La Pâque, c'est... Si on venait encore plus loin, c'est un sauvetage. Ça me fait toujours penser à cette histoire drôle que tout le monde connaît. Je vais la redire très très rapidement. Vous savez, cet homme qui prie Dieu toute sa vie, qui croyait, etc. Puis un jour, il y a des grandes inondations qui y viennent. Et il dit à Dieu, donc il monte sur son toit, l'eau monte, et puis Dieu va me protéger, Dieu m'a toujours protégé. Alors, il y a les pompiers qui passent avec une petite voiture qui peut encore passer, il dit non, vous venez, non, c'est bon, Dieu s'occupe de moi. Ensuite, il y a un bateau qui passe quand l'eau monte, venez, non, c'est bon, Dieu s'occupe de moi, vous inquiétez pas, je vous remercie, occupez-vous plutôt des autres. Finalement, l'eau est montée jusqu'à la cheminée, il y a un hélicoptère qui vient, venez, non, c'est bon, Dieu s'occupe de moi, c'est gentil, mais occupez-vous de ceux qui n'ont pas Dieu. Finalement, l'homme est noyé et meurt, il arrive au devant Dieu, il dit, bah alors attends, je comprends pas, j'ai prié, je te comptais sur toi et tu m'as pas sauvé. Bah dis, je t'ai envoyé une voiture, un camion de pompiers, un hélicoptère. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que c'est un sauvetage. Et le sauvetage, il faut le prendre immédiatement. Et cet homme-là, sur son toit, il avait son levain à lui, qui était, mais non, je pense comme il faut, je sais que ça va se passer comme ça, j'ai la connaissance. Non, non. Il faut mettre dans son pain à soi le levain que Dieu nous donne, celui de la sincérité et de la vérité, qui permet à ce moment-là, ce pain de vie, de faire son travail en nous. Alors, je disais en préambule que la résurrection n'était finalement que la conséquence de la fête de Pâques, telle que nous l'avons vue ici. Pourquoi la conséquence ? Parce que le sang de l'agneau sur les linteaux des portes des Hébreux les a gardés en vie pendant un certain temps. Le temps qu'ils partent, et ils arrivent sur les bords de la mer Rouge. Sauf qu'entre-temps, Pharaon s'est réveillé et qu'il a dit « Ouh là là, ça pue tout, je vais y aller ». Donc ça leur a fait gagner, quelques heures, quelques jours, je ne sais plus exactement combien de temps a duré la traque par les Égyptiens. Mais arrivés devant la mer Rouge, le sang sur les linteaux ne leur sert plus à rien du tout. Ce qui va faire la différence, c'est le miracle. Et le miracle, c'est la mer Rouge qui s'ouvre. Et à ce moment-là, avec la mer Rouge qui s'ouvre, en représentant les eaux du baptême, enfin, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, c'est la vraie liberté qui commence. Là, les chaînes de l'Égypte tombent, parce que l'armée de Pharaon est exterminée, donc ils ont vraiment maintenant le temps d'avancer et de pouvoir aller vers la terre promise, vers la vraie liberté. Mais la première Pâque, celle la Pâque telle qu'on l'entend, le sang sur le linteau, la mort qui passe au-dessus, ce n'est qu'un délai. Mais si derrière Dieu ne fait pas le miracle absolu, ce délai ne sert à rien. Et le miracle, c'est l'ouverture de la mer Rouge. Même principe, passons au Nouveau Testament. Jésus meurt pour nous sur la croix. Nous sommes donc purs grâce à son sang à lui. Mais si lui s'arrête à la mort sur la croix, nous sommes purs sur notre vie terrestre en quelque sorte. Mais une fois mort, une fois que les Égyptiens nous ont rattrapés, on a juste gagné du temps. Si Jésus ne ressuscite pas sur la croix et ne donne pas à sa mort une marque de victoire, mort, où est ta victoire, où est ton aiguillon, la résurrection, oui, elle y est, tout ce qu'on a, notre foi avant même, aura été inutile. C'est pour ça que, je crois que c'est toi qui disais au début, notre foi est vaine si nous ne croyons pas que Jésus est ressuscité. Mais pour être libéré des chaînes de la mort, il faut évidemment la résurrection. Mais la résurrection, elle est la conséquence d'abord de ce passage par-dessus de cette Pâque où ce sang-là est versé dans des conditions absolument horribles, pénibles. Et je pense que les disciples, c'est marqué dans les évangiles, et tous les gens qui ont assisté à la mort de Jésus, c'était comme les Hébreux dans leur petite maison en Égypte. Ce moment de la mort de Jésus, ces 3 jours, ont été terribles pour eux. Ils sont partis, ils sont cachés, ils ont eu peur, ils ne bougeaient plus. C'est la même terreur. Et nous devons avoir cette même terreur-là. C'est-à-dire que la mort nous environne, ce monde est là pour nous faire du mal, on le sent, on le devine, on sait que ça va mal se terminer de toute façon, et le saut par-dessus notre mort n'a de réelle valeur, il n'est validé en quelque sorte que parce que Jésus, après, il est ressuscité, comme la mer Rouge a été ouverte. Donc, ce miracle obligatoire fait débuter la vraie vie. Et c'est là, à ce moment-là, que l'on peut dire « Alléluia, Christ est vraiment ressuscité ». Mais ne perdons pas de vue la cause initiale qui a permis à ce miracle d'avoir du sens. Ma seconde partie expliquera rapidement que ceci mis en place de façon intellectuelle, en quelque sorte, nous sommes quand même des hommes de peu de foi, puisque les apôtres comme nous-mêmes, les Hébreux comme nous-mêmes, ne sommes pas capables de réagir positivement à ce don de la Pâque. pour les Hébreux, vous connaissez la suite, ils vont aller dans le désert, ils vont se plaindre, ils vont dire pourquoi nous as-tu amenés ici alors qu'il y avait, quitte à avoir un tombeau, mieux mourir dans les beaux tombeaux d'Égypte que dans le sable du désert, le veau d'or, toute leur révolte que vous allez, que vous connaissez parfaitement, qui sont les nôtres. Ils ont été protégés de la mort qui est passée au-dessus, ils ont vu le miracle de la mer Rouge, et pourtant, encore vivants, et vivants pour la terre promise, ils boudent, ils se rebellent, ils ne sont pas d'accord, ils protestent. Ça va être pareil pour les disciples dans le Nouveau Testament. Alors, je ne vais pas vous prendre trop de temps, donc je ne vais pas vous lire tout ce qui est écrit, mais je sais que vous le savez, quand on va, on a entendu dans le texte qu'a lu Michel, si on lit les quatre évangiles, les réactions de tous les disciples auxquels Jésus apparaît, devant lesquels Jésus apparaît, sont absolument désespérantes. Même les femmes, j'ai relevé tous les adjectifs qu'on peut lire dans Luc, Matthieu, Marc et Jean. Les femmes sont perplexes, ou les disciples sont craintifs, disent que ce sont des niaiseries. Il y a le mot crainte, le mot frayeur, le mot étonnement, le mot incrédulité, le mot épouvanté, tremblant, hors d'eux-mêmes. Ils ne le croient pas, jusqu'à le fameux épisode de Thomas, dont on pourrait tirer beaucoup de choses. Ces personnes qui ont vécu avec Jésus, qui ont été bénéficiaires du sang de la Pâque sur le linteau de la croix, qui sont mis en direct sur la résurrection, c'est-à-dire que le miracle obligatoire pour que le sang serve à quelque chose, ils l'ont devant les yeux. Ces gens-là ne croient pas, ne croient qu'au bout de vraiment de beaucoup de remarques de Jésus, qui va même se fâcher contre eux. Dans Luc 24, juste celui-là, 25-27, Jésus leur dit « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, de Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Eux, ils ont assisté à tout ça, ils connaissaient parfaitement les prophètes, ils ont vécu avec Jésus, et pourtant, ils sont totalement terrorisés, apeurés, incrédules. Nous ne sommes pas mieux que les Hébreux, nous ne sommes pas mieux que les disciples, parce que si on était aussi sûr qu'on devrait l'être, nous n'aurions pas autant de mal à témoigner autour de nous, nous ne serions pas si peu nombreux dans cette église, nous n'entendrions pas les gens sur France 2 raconter n'importe quoi, parce qu'ils seraient plus au courant. Nous sommes terrorisés par cette résurrection. Nous y croyons, oui, nous y croyons, mais au fond de nous, on est apeuré, on est perplexe, j'aimerais bien le voir avec les, on est Thomas, on est tout ça. C'est, la Pâque, elle est perpétuelle chez nous. Et alors, il faut absolument que nous ayons en tête tout ce cheminement de la terreur des Hébreux et des disciples pour admettre notre terreur à nous et l'accepter. Et pas se dire que c'est une faiblesse. C'est normal d'avoir peur. On aurait été à la place des Hébreux, on aurait été terrorisés devant la mer Rouge, on aurait été terrorisés. Après la mer Rouge, on aurait été terrorisés. Là, on aurait été les disciples de Jésus, on l'aurait vu pris, crucifié, mort, on aurait été terrorisés. Après, seul, on serait dit, on va se faire tuer. Jésus réapparaît, mais qui croit à quelqu'un qui réapparaît? Pensez à tous les proches que vous avez perdus. Et si vous rentrez chez vous, vous le voyez, vos premiers sentiments, ça va être la terreur, l'incompréhension. Ce n'est pas possible, je ne crois pas. Nous sommes tellement dans la terre d'Égypte, nous sommes tellement dans Sodome et Gomorre, nous sommes tellement dans ce monde qui nous met les pieds dans la glaise. Mais il faut fuir. La Pâque, c'est ça. Enlevez vos pieds de cette glaise-là. Fuyez ce confort-là. Ce qui ne veut pas dire vivre dans une grotte, mais toujours être prêt avec son bâton à partir. Paul disait à propos de l'avion, le crash. Oui, peut-être qu'en sortant, il va nous arriver quelque chose, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on a notre bâton, nos sandales? Et malgré tout ce qu'on a construit, est-ce que notre premier sentiment, c'est « je suis prêt à partir, je fuis, je m'en vais » avec Jésus, ce mouvement-là. C'est ça la Pâque. Enfin, c'est comme ça que je la comprends. Et du coup, le cri « Christ est ressuscité » est vraiment ressuscité. Ça a du sens parce que ça donne toute ma raison d'être à mon départ préparé, à mon mouvement, à ma mobilité. Et Jésus, en se sauvant de la croix, en ressuscitant, c'est ce qu'il a fait. Il s'est enfui, il s'est évadé de cette terre-là, de cette Égypte, de cette planète qui est dominée par le mal et par nos peurs. Mais ce qui est intéressant, pour conclure, c'est de voir que les réactions des non-croyants ne sont pas plus brillantes. Au moins, ça nous rassure. Et elles sont tellement pas brillantes que il est marqué dans Matthieu deux fois exactement les réactions qu'ont toutes les personnes aujourd'hui, et peut-être celle de la journaliste de France 2 qui n'a pas osé le dire en public que Jésus était ressuscité, donc a inventé n'importe quoi pour mériter sa paye. Et voici comment réagissent les gens à l'époque de Jésus, et voici comment réagissent les gens exactement aujourd'hui devant ce miracle nécessaire de la résurrection de Jésus que nous fêtons aujourd'hui. Dans Matthieu 27, 62 à 66, alors 27, 62 à 66, voilà. Le lendemain, donc le lendemain où Jésus a été mis en croix, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et dire « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc qu'on s'assure du sépulcre au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, assurez-vous comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre après avoir scellé la pierre et posté la garde. Réaction scientifique. Ce n'est pas possible, ils disent n'importe quoi. Donc on va démontrer par A plus B que personne ne peut ressusciter, le corps est bien gardé, la pierre est roulée, les études montrent que, etc. Donc vous croyez quelque chose qui n'est pas possible, on a mis les gardes de la science devant, c'est injouable. D'accord ? Sauf que les savants, au bout d'un certain moment, les gardes, sont forcés de revenir vers Pilate. Ils disent, attendez, il y a un problème, nous on a vu des trucs, tombant de terre, des anges, la pierre est plus là et le corps il est plus là. Ok, donc quiconque d'à peu près logique dirait, bon, bah, alors on s'est planté sur notre première manière de voir, donc acceptons ce miracle nécessaire. Non, car l'esprit humain est tellement tortueux que voici ce qu'ils inventent. Et ce qu'inventent les gens d'aujourd'hui sur France 2 et ailleurs, pour continuer à être dans cette terre glaise de l'Égypte, dans cette boue qui nous empêche de fuir avec nos sandales derrière Jésus, 28, 11, 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, donc les femmes qui ont vu Jésus ressusciter, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ils l'ont vu. On l'a vu. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens, avoir tenu conseil, donc avoir pris le temps que le levain prenne bien dans leur pain à eux, donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent en ajoutant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion et nous vous tirerons d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et exécutèrent les instructions qui leur avaient été données et ce bruit s'est colporté parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Et parmi tout le monde. C'est-à-dire que mis devant la vérité inconcevable de cette résurrection, au lieu de dire « Amen », non, vous allez, on ne conteste même plus cette résurrection. C'est possible qu'elle ait lieu puisque vous étiez là. Mais on va vous payer pour que vous disiez que ça n'est pas arrivé. Et le voilà le fameux péché contre l'esprit dont parle Jésus un peu plus tôt. C'est pas de dire c'est impossible que le corps ressuscite, parce que nous c'est ce qu'on pense pareillement. C'est de dire je sais qu'il est ressuscité, parce que j'ai eu des preuves, des gardes vont me le dire, mais c'est vous dites qu'il ne l'est pas. Je vous paye. Et s'il y a un problème, on vous couvre. Voilà la vraie chape de plomb du mal. Et voilà ce à quoi nous devons nous échapper. On a droit à toutes les terreurs, on a droit à toutes les peurs, à tous les doutes, à toutes les épouvantes. Mais on n'a pas le droit d'accepter l'argent de notre mauvaise conscience, l'argent de la bonne amitié avec les gens qui ne croient pas, et garder pour nous-mêmes, oui, oui, ben non, en fait, non. Non. Cet argent-là, c'est l'argent de Judas. C'est l'argent de tous nos veaux d'or. C'est l'argent du mauvais levain. Alors, Pâques, oui. La Pâque, c'est je suis sauvé par le bout des cheveux. J'accepte ça. J'accepte toutes mes terreurs parce que je ne comprends que peu de choses. Mais je sais que Christ est vraiment ressuscité. Et si une fois qu'on a accepté ça, alors la conclusion, ça va être la même et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. On va lire dans Exode 13, 8, 9. Et ça sera ma conclusion pour qu'on se quitte avec cet espoir et cet optimisme en nous. 13, 8, 9. Donc Moïse redit tout ce qui s'est passé cette fameuse nuit en Égypte, et là il dit « Tu feras en ce jour un récit à ton fils en disant « C'est à cause de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte, ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un rappel entre tes yeux afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est d'une main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. » Ça, c'est ce que les Hébreux ont entendu. Et maintenant, si on le transporte au Nouveau Testament, donc à nous, c'est Matthieu 28, 18, 20. Jésus s'approcha, alors, au verset 17, quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Hein? Jésus s'approcha et leur parla, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme dans l'Ancien Testament. Dites à vos fils, témoignez, gardez dans vos mains la loi de Dieu, et grâce à cette Pâque qui est, avec Jésus, totalement accomplie, allez, faites des disciples dans toutes les nations. Dites à tous les fils de la terre, tous les fils d'Égypte, que je suis vivant et ressuscité, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, alors on peut, comme dans Luc chapitre 24, là je vous ai lu les derniers versets de l'évangile de Matthieu, voici les derniers versets de l'évangile de Luc, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après avoir l'adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. Voilà tout le chemin de la Pâque. C'est celui qui nous amène de la terreur de la glaise d'Égypte à la joie absolue parce que nous sommes avec Dieu.